Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique, le retour, une vieille complice, Tiphaine. Bonjour Tiphaine, comment allez-vous ?
Eh ben, ça va très bien, come back.
Merci d'être parmi nous, en direct du studio Chisel Halimi, votre serviteur André Satenza. Parmi nous aujourd'hui, le docteur François Olivier, médecin psychiatre. Il est le président de la Fédération régionale de la recherche en psychiatrie et santé mentale. Monsieur François Olivier, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup de m'accueillir, monsieur Atenza. Bonjour Tiphaine et bonjour aux auditeurs de Radio Esprit Occitanie.
Alors, fédérer, innover, accompagner pour améliorer la qualité des soins en psychiatrie. Vaste programme, monsieur Olivier.
Immense, à la hauteur de ce que la spécialité a besoin, peut-être. Vous savez que c'est la psychiatrie, la santé mentale, c'est une spécialité qui est en difficulté. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail.
Alors, vous avez créé cette... vous êtes à l'initiative avec, bien sûr, d'autres psychiatres, mais on pourrait dire aujourd'hui, sans aucune vanité, je ne vais pas vous jeter de fleurs, vous êtes le leader. Vous avez créé, en 2015, cette fédération. Comment est née cette idée ? Les psychiatres étaient isolés dans leur établissement, pas de rencontres, pas de colloques précis. Alors, racontez-nous la petite histoire,
oui, peut-être. La petite histoire, c'est simple. Alors, c'est à l'initiative de plusieurs collègues, et notamment à l'époque, il y avait le professeur Schmitt, Laurent Schmitt. Il y avait Gilbert Angard, qui était le directeur du Bon Sauveur d'Albi, et quelques autres collègues. On faisait deux constats, en fait. Premier constat, notre spécialité était de plus en plus en crise. À l'époque, on manquait d'infirmiers, on commençait à manquer déjà de praticiens. Ça s'est malheureusement aggravé depuis. Et on sentait qu'effectivement, face à cette crise, les professionnels se repliaient un peu dans leurs établissements et les moyens de communication entre eux s'amenuisaient au fil du temps. Et vous savez que dans une spécialité comme la nôtre, quand les gens ne se parlent pas, quand les gens ne communiquent pas, quand les gens n'échangent plus, quand le savoir ne diffuse plus, eh bien la qualité des soins régresse. Ça, c'est une certitude. Et donc, la première idée, c'était de dire il faut relancer des réseaux de communication, il faut relancer des moyens de se rencontrer, de se parler et d'échanger ensemble. Ça, ça a été le premier constat. Le deuxième constat, c'est un constat qui vient d'un paradoxe. Il y a un paradoxe dans notre pays qui est que la psychiatrie et la santé mentale est la spécialité qui va toucher peut-être le plus de Français finalement.
Rassurez-nous, les Français sont en bonne santé mentale ou ça se dégrade ?
Ils sont en santé, mais enfin, les indicateurs ne sont pas très bons. Et depuis le Covid, les indicateurs sont inquiétants, même pour les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes.
On reviendra sur cette question à travers l'observatoire.
Ça s'est un petit peu aggravé, on va dire. Bon, enfin, passons. L'idée, c'était de se dire que finalement, on est dans un paradoxe français où vous avez une spécialité qui va toucher beaucoup de Français, qui coûte la plus chère, puisque 23, je crois, millions d'euros pour la sécurité sociale en psychiatrie. Premier poste de l'assurance maladie. Première spécialité touchée par les invalidités. Première spécialité touchée par les handicaps. Deuxième spécialité pour les arrêts de travail, etc. etc. On est la spécialité sur laquelle on devrait mettre le maximum de moyens dans notre société.
Soigner nos compatriotes.
En paradoxe, en face de ça, vous avez une des plus petites portions de la recherche en France, puisque 3-4% de la recherche sont fléchées vers la psychiatrie. Ce qui est un drôle paradoxe, alors qu'en Angleterre, c'est 7%, je crois. Aux États-Unis, 11%. Donc, effectivement, on se demande pourquoi. C'est comme ça. En France, il y a ce paradoxe-là. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas pertinent, finalement, qu'on se mobilise et qu'on essaye, nous, de prendre les choses, peut-être, ou de développer un peu plus cet aspect de la recherche. Voilà comment c'est parti
comment
en 2015.
Et autour de cette idée, vous ont rejoint initialement 13 établissements publics et privés.
C'est ça.
Vous avez ouvert.
C'est ça.
Vous n'êtes pas sectaire.
À l'époque, on était sur la région Midi-Pyrénées. On n'était pas encore passé en Occitanie. On a réuni un peu les directeurs et les responsables de CME des différents établissements. Et on s'est retrouvés à 13 autour de la table. Et finalement, unanimité, tout le monde s'est dit, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. Et c'est parti d'un constat comme ça. Il faut se mettre ensemble.
13 initialement. Aujourd'hui, combien d'adhérents ?
Aujourd'hui, nous sommes à 33 adhérents. Il y en a 4 qui viennent nous rejoindre, dont le CHU de Nîmes. Il y en a encore d'autres.
Et donc aujourd'hui, c'est la région Occitanie.
C'est la région Occitanie, voilà. On est une fédération qui a deux spécificités, des établissements sanitaires, hein, puisqu'on réunit, nos membres sont des établissements ayant un agrément sanitaire, qui appartiennent à l'Occitanie. Et on est en train de réfléchir comment intégrer ou associer, d'une façon ou d'une autre, nos amis du médico-social. Parce que c'est vraiment aussi important qu'on travaille avec eux. Donc voilà, on est dans cette...
Au sein du médico-social, pour les troubles du comportement, au spectre autistique, on demande et on cherche également des psychiatres. Oui, souvent, et on sait que c'est une spécialité où il y a pénurie du personnel.
Il y a pénurie, oui. Alors qu'il y a une
s'arrache les psychiatres.
On s'arrache. Et il y a effectivement une interface évidente entre la personne qui a besoin de soins et le handicap, enfin la personne qui souffre d'un handicap, parce que ce sont les mêmes, hein, sauf que les uns sont fléchés dans le milieu sanitaire, les autres sont fléchés dans le milieu médico-social, mais eux, ils transitent dans les deux domaines. Et donc, il est vraiment pertinent qu'on suive ces parcours et qu'on s'intéresse à ces parcours entre les deux dimensions, en fait.
En préparant cette émission, vous m'avez dit également que le privé représente un tiers des places dans le...
Je crois que c'est 32% des établissements.
C'est ça.
Sont des établissements privés, si je me rappelle bien. Et je crois que 44% sont publics. Et les 20 quelques restants sont des établissements privés, mais à but non lucratif. D'accord. Ce qu'on appelle des ESPIC, voilà. Notamment. Voilà.
Alors, vous avez créé, non pas une association...
Non, c'est une fédération.
Mais c'est une fédération sous la forme d'un
groupement. Voilà, c'est un groupement d'intérêt public.
Voilà.
Voilà, donc on s'est associé sous ce format-là parce que ça nous a semblé le plus adéquat. Et donc, effectivement, on avait l'idée de réunir l'ensemble des ressources de la psychiatrie sanitaire. Donc, c'est-à-dire centre hospitalier universitaire, centre hospitalier qui font de la psychiatrie, centre hospitalier spécialisé, ESPIC, clinique privée, associations, fondations, tous ceux qui ont des agréments de soins en psychiatrie en Occitanie sont les bienvenus dans notre fédération.
Alors, on va passer à l'organisation, parce que vous êtes la cheville ouvrière en tant que président, mais vous êtes très opérationnel. Vous-même, vous êtes en activité.
Ah oui, moi je suis psychiatre.
Psychiatre à Montauban.
Praticien hospitalier au centre hospitalier de Montauban. Voilà, où j'anime une unité, alors on appelait ça hospitalisation à domicile en psychiatrie, maintenant ça s'appelle un SPIAD, un service psychiatrique intensif à domicile. Ce sont des problématiques administratives. Mais je suis travaillé aussi dans le médico-social.
Et vous travaillez dans le médico-social. Et vous partagez votre emploi du temps, pourrait-on dire, entre le service de votre institution à Montauban et le service de la fédération en psychiatrie.
Donc entre médico-social, sanitaire et fédération de recherche.
Autour de vous, une singularité, vous avez une équipe de personnes qui ont été mises à disposition par les établissements. Vous appelez cela la cellule de coordination. Et autour de cette cellule de coordination, vous avez des collaborateurs, des chargés de mission, de recherche, des psychiatres. Et vous animez vous-même cette cellule pour animer l'ensemble des activités de la fédération.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des gens mis à disposition. Alors, nous les rémunérons, bien sûr, mais déjà mis à disposition par différents établissements. Par exemple, moi, je suis mis à disposition par le centre hospitalier de Montauban sur une petite quantité de montants. Et puis, j'ai la chance d'être entouré par une équipe géniale. Donc, j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont...
Ce sont des gens motivés. Hein.
Ah, ils sont motivés, ils ont la passion et puis ils bossent bien. Ils font un super boulot. Donc, voilà, j'en profite pour les féliciter. Je leur dis merci.
On les salue. Ils écouteront, j'espère, cette émission. Alors, quelles sont les missions de cette fédération? Si on essaie de décliner les quelques lignes de force dont une... Animer le territoire, vous l'avez dit, partager les connaissances, fédérer les acteurs, dynamiser la recherche. Si on essaie de rentrer un peu plus dans le détail, par exemple, dynamiser la recherche, cela veut dire quoi? Que la fédération répond à des recherches, à des appels, à projets qui émanent du secteur public et privé, ou plutôt ce sont les établissements qui répondent et vous les soutenez? Comment cela fonctionne?
Voilà. Alors, c'est assez simple. En fait, en France, la recherche est plutôt dans le domaine des centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire qu'en France, la recherche médicale va se positionner autour des CHU.
Et donc avec les collègues universitaires.
Avec les collègues universitaires avec qui nous sommes en collaboration. Et vraiment, l'idée, c'est de devenir en partenariat. Sauf que, si vous voulez, les universitaires sont malheureusement pas très nombreux. On n'a pas une dotation universitaire énorme en France. Et donc, ils font un travail remarquable en termes de publication, de recherche fondamentale, mais ils ne peuvent pas embrasser peut-être tout ce qui est possible de faire. Et d'autant plus que le CHU représente une file active à peu près de 10% de la psychiatrie. Donc l'idée, en fait, c'était de réunir tout le monde, quoi. C'est-à-dire les CHU, certes, mais toute la file active de la psychiatrie, sachant qu'une bonne idée de recherche peut partir d'un CHU, mais peut partir aussi d'un hôpital périphérique. Il y a des gens extrêmement brillants et compétents.
D'une clinique privée partout.
Et donc l'idée, c'était de dire, chaque fois que quelqu'un, finalement, a un projet de recherche, l'idée, c'est qu'il y ait un lieu d'accueil. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais aujourd'hui, la recherche, c'est très complexe. Avoir une idée, être un clinicien, c'est le point de départ, mais ça ne suffit pas. Il faut un chargé de projet, il faut quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est la loi et le réglementaire, il faut des data managers, il faut des financements, etc. Donc en fait, l'idée, c'était de créer une espèce de plateforme, de porte-avions, si vous voulez, où les gens viennent, ils viennent chercher ce dont ils ont besoin. Et donc, on peut les accompagner.
Il y a un travail d'ingénierie, pour être.
Exactement. On les accompagne dès le départ, s'ils souhaitent, dès la réflexion sur le montage du projet. Et après, le pilotage, s'ils le souhaitent. On peut être nous-mêmes porteurs de projets de recherche. Et on les accompagne jusqu'à une publication, jusqu'à une présentation en congrès, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent chercher ce dont ils ont besoin. Et notre mission à nous, c'est d'être aidants de ce dont ils ont besoin, en fait.
Et la recherche est ensuite mise à disposition de l'ensemble du réseau.
Bien sûr, bien sûr. Après, l'idée, c'est de
publier. J'imagine qu'on trouve les contributions intellectuelles dans votre site.
C'est ça, sur le site internet.
Au sein de votre site internet. On peut télécharger, il y a peut-être des documents PDF ou autres qui sont à disposition des praticiens et des professionnels du secteur.
Tout à fait.
Voilà,
à fait.
Donc, comment est financée la fédération?
Alors,
vous avez
y a deux choses.
Des ARS, est-ce que vous avez autre chose?
En fait, on a commencé par deux financements simples. Le premier, c'est la cotisation de nos membres, cotisation modeste, mais quand même intéressante. Donc, chaque membre verse sa cotisation à la FEREPSI. Et ensuite, on a eu un accompagnement dès le départ, et il faut les remercier, de l'ARS Occitanie.
Dont la puissance publique vous soutient.
Voilà, nous a soutenus dès le départ. Il faut leur dire merci, parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné, sachant que ce modèle-là existait peu. En France, il était développé que dans le Nord, dans les Hauts-de-France. C'était la première fédération était dans
le Nord. Oui, alors j'ai remarqué que dans votre plaquette, vous dites qu'il n'y a que deux fédérations en France.
Il n'y en a que deux. Pour l'instant, il n'y en a que
Hauts-de-France et Occitanie.
Voilà. Donc, on les a suivis de quelques années. Voilà, l'innovation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ces modèles ont fait florès, puisque aujourd'hui, et je pense que c'est une de nos fiertés, et c'est un peu ce principe un peu volontariste, hein, où on se dit que finalement, si on se mobilise, on peut faire bouger la politique publique. Finalement, en 2023, la DGOS a décidé de mettre...
La
Direction générale de l'offre de soins, en fait, c'est l'État, en fait, qui a financé 5 millions d'euros pour que se développent dans chacune des régions de France d'autres fédérations.
Donc, a priori, on pourrait dire qu'il y aura 13
régions. Normalement, il devrait y avoir
13 fédérations.
13 fédérations, sous
peut-être peu. Peut-être qu'il y aura ensuite l'union des fédérations.
Mais ça existe déjà. Nous avons déjà monté la coordination nationale des espaces de recherche.
Autre centre d'intérêt développé par votre fédération, c'est les journées dites scientifiques ou thématiques, et dans les journées liées bien entendu à la formation. Alors j'ai trouvé dans votre plaquette des journées, la biennale art et soins. C'est assez original. Alors, en effet, on sait qu'il y a une médiation parfois dans le médico-social. On travaille, l'art peut soigner, hein, bien entendu. Sûr. Cette biennale art et soins, vous l'avez en plus organisée dans les abattoirs.
Au musée des abattoirs, nous avons des abattoirs, un partenariat
là,
avec eux.
Au cœur de l'art. Beaucoup de contributions intellectuelles, il y a eu beaucoup de...
Oui, et puis
d'initiative
on continue.
Autour de cette question.
En fait, il y a une très forte interface entre l'art et la psychiatrie, en fait. On trouve beaucoup de gens qui ont croisé ces deux mondes.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les artistes sont fous?
Non, mais peut-être ils ont une
sensibilité. Ou il y a un peu de folie.
Ils ont une sensibilité qui leur permet peut-être d'approcher le monde de la folie. Et je trouve que c'est intéressant, de la même façon que peut-être les psychiatres ou les soignants en psychiatrie sont beaucoup plus sensibles à cette dimension-là aussi.
Il me semble que j'ai lu quelque part une anecdote que Dali disait « j'ai un projet de devenir fou ». Je ne sais pas si c'est ça.
Je ne sais pas s'il est arrivé, mais bon. Voilà, donc l'idée, c'est en fait de partir de l'art et d'arriver à la psychiatrie, de partir de la psychiatrie, d'arriver à l'art. Et effectivement, comme vous le dites très bien, il y a plusieurs façons de soigner les gens. On peut utiliser des médicaments, on peut utiliser des psychothérapies, mais on passe sur des choses qui sont soit chimiques, soit verbales. Mais beaucoup de gens ont du mal à répondre à ces deux dimensions, et d'autres vont être beaucoup plus sensibles à des médiations, et notamment l'art est une médiation extraordinaire. Donc là, on a donc des contrats, par exemple, on réfléchit sur effectivement la prescription muséale, c'est-à-dire comment amener nos usagers à aller dans les musées, à se baigner de la culture, à sortir dans le monde social, parce que ça, on sait que ça a un impact positif. On a un magnifique projet avec l'orchestre du Capitole, où on travaille aussi sur le projet Résonance autour de la musique, où on accompagne et ils jouent le jeu. Enfin, c'est génial, cette mixité entre les joueurs de l'orchestre du Capitole et certains usagers qui discutent avec eux, qui viennent les écouter lors des répétitions. C'est extrêmement intéressant. Et donc, on voit bien que l'art peut avoir un impact extrêmement intéressant. On a fait des recherches extrêmement intéressantes aussi sur le rythme en musique, la musique rythmique, comment ça pouvait aussi éveiller les capacités cognitives de certains de nos patients. Enfin, voilà, il y a une interface extrêmement passionnante entre ces deux mondes.
Mais on n'oublie pas quand même aussi, il y a des demi-journées ou des journées complètes sur la psychopharmacologie. Donc on sait bien que parfois, il faut des
oui,
molécules.
Il n'y a pas qu'une façon d'aider voilà. Les gens. Et donc voilà. L'idée, c'est de ne pas, pas se limiter en fait. Et d'ouvrir tous les champs du possible.
Et donc, vous avez des journées cliniques. Là, on voit bien.
C'est ça.
Et le travail clinique, on est au pied du malade.
C'est ça. Et donc, tous les ans, on organise, la FEREPSI organise 4 journées réparties sur 3 manifestations, à la fois pour former, parce que l'idée, quand même aussi, c'est de former les soignants et de diffuser l'information des innovations ou des éléments les plus récents. Dans différents domaines, donc ça c'est des rencontres régionales qui ont lieu en mars en général sur 2 journées, et ça ce sont les universitaires qui nous aident à monter le plan de cette journée, le programme, et ensuite nous avons prochainement il va y avoir à la clinique Beaupuis une journée d'échange des pratiques où ce sont les équipes des établissements à FEREPSI qui viennent présenter ce qu'ils ont de meilleur, de plus original, de plus innovant aux autres équipes de la fédération, et en fin d'année on a une dernière journée sur la recherche en soins, c'est-à-dire que la recherche, ce n'est pas que les psychiatres, c'est aussi les psychologues, les infirmiers, les aides-soignants, les ergothérapeutes, etc.
Les soignants au sens large.
Les soignants au sens large, la recherche ne s'arrête pas au monde médical et on fait de la recherche tout à fait passionnante, que ce soit au niveau de nos collègues psychologues ou des infirmiers, etc., des IPA, voilà. Donc, vous voyez, 4 journées, et en plus, au milieu de ces 4 journées, on rajoute des thèmes où des gens nous demandent de monter des journées. Et en fait, finalement.
Oui, vous avez des demandes spécifiques.
Voilà, des gens nous voient en disant on aimerait monter une journée sur ce thème-là.
Vous,
est-ce que vous pouvez nous aider à la monter?
Voilà. Et vous mettez tout en œuvre pour que ça réussisse.
Voilà, donc ça fait partie de nos missions, à la fois de réseau, d'accompagnement à des projets territoriaux et en même temps de soutien à un projet et à diffusion d'informations. Donc, on monte à peu près une dizaine de journées. Je crois que l'année dernière, on avait accueilli à peu près plus de 1200 personnes dans nos journées, rien qu'en une année. Donc
vous êtes centre de formation également.
Alors voilà, on est Calliope, donc on est formateur.
Vous êtes référencé, Calliope, vous avez tout ce
Data
qu'il faut.
DataDoc, Calliope, on a tout ce qu'il faut. Alors c'est une branche qu'on aimerait développer. Après, l'idéal, c'est de ne pas venir faire concurrence ou compétition à ce qui se fait déjà. En fait, l'idée, c'est de trouver là où on peut être le plus utile en fait, dans la formation, c'est-à-dire sur des formations soit qui sont peu développées, soit très techniques, qui demandent effectivement des interventions spécifiques. Voilà, donc on essaye de monter.
C'est surtout le sur-mesure que vous.
C'est le sur-mesure, voilà. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va pas refaire ce qui se fait ailleurs, c'est pas la peine. Ça se fait déjà très bien ailleurs. Par contre, il y a probablement des domaines de spécificités, où on peut aller, et l'avantage c'est qu'on peut aller dans les établissements, former les équipes sur place. Là il y a un joli projet de formation avec un groupement qui s'appelle le GRIEPS, où on va travailler à soutenir notamment les équipes soignantes à acquérir les termes de sémiologie psychiatrique, ce qui est tout à fait passionnant, parce qu'on voit bien que la formation étant un peu légère, malheureusement, en heure de formation psychiatrique, il faut aider et on va essayer de rediffuser la finesse de la sémiologie psychiatrique auprès des soignants.
Avant d'aller un peu plus en avant de notre entretien, je vous propose une pause musicale et puis un peu de nostalgie. Un très beau chanteur, une belle voix, Mouloudji.
L'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours au studio Gisèle Halimi avec le docteur François Olivier. Nous abordions, en quittant la première conversation, la formation, le conseil scientifique, la recherche, dont vous avez structuré votre groupement d'intérêt public avec une présidence, avec une cellule, un conseil et bien entendu un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique est composé de psychiatres de l'ensemble des établissements, plus des universitaires.
C'est ça, on a un modèle.
Vous les avez cooptés, vous avez fait appel
non,
en fonction.
Non, pas du tout. Non. En fait, on a des statuts assez simples, c'est-à-dire que chaque établissement est représenté par deux membres, quelle que soit la taille de l'établissement, est représenté par deux membres au sein de l'Assemblée générale, le directeur ou la représentation de la direction, et un médecin en général, président de CME ou responsable de pôle psychiatrie. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée générale. Et puis, au niveau du conseil scientifique, donc présidé par un universitaire, pour l'instant, c'est le professeur Christophe Arbus de Toulouse qui préside ce conseil scientifique. Et là aussi, tous les établissements sont représentés par deux membres. C'est eux qui nous adressent de membres, un médecin et un non-médecin. Et sont invités les universitaires assiégés de la région, sont invités l'UNAFAM, qui est l'association des familles
et des usagers.
Et c'est très important qu'ils soient
c'est
là.
C'est important aujourd'hui.
Il n'y en a malheureusement pas de représentants de la FNAPSI, c'est-à-dire des usagers sur l'Occitanie. Et ensuite, il y a un représentant de l'ARS, un représentant de la Direction de la Recherche et d'Innovation du CHU et représentant des internes en psychiatrie qui sont invités, conviés aussi à venir participer.
Vous aviez dit qu'initialement, en 2015, l'ARS vous avait soutenu et financé. Vous avez un renouvellement d'agrément, pourrait-on dire.
C'est ça,
vous négociez les budgets tous les ans.
Oui, on était sur un CEPOM de 3 ans régulièrement. Et puis, depuis l'arrêté
ministériel... Alors, le
CEPOM,
c'est un contrat pluriannuel.
C'est un contrat pluriannuel de 3 ans où on définit... La puissance publique définit la hauteur de son investissement. Et puis là, c'est devenu pérenne, puisque là, c'est la DGOS et donc l'arrêté ministériel de 2023 qui définit une enveloppe financière adressée à toutes les régions de France. Ouais. Donc, qui devrait être pérenne normalement.
Pérenne pour les prochaines années. Continuer le travail. Voilà. Et puis peut-être dans d'autres régions, d'autres fédérations qui vont pas. Voilà. Vous avez développé également des outils qui sont au service des territoires. Vous avez un observatoire régional.
C'est ça.
Et cet observatoire régional, également, ce sont les adhérents qui doivent quoi vous donner des indicateurs précis. Comment s'est monté cet observatoire territorial de la santé mentale?
Alors c'est assez simple. L'idée est que il y a beaucoup de chiffres qui circulent.
Mais il n'y a pas de consolidation.
Non, c'est que c'est difficile d'y avoir accès. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un peu statisticien ou capable d'aller piocher dans le système national, vous voyez, des données, c'est extrêmement compliqué de savoir finalement les indicateurs qu'il y a sur votre territoire. Donc on s'est dit, autant là aussi se mettre en marche et développer. En fait, on est allé voir nos collègues du CREAI-ORS, c'est-à-dire de l'Observatoire Régional Santé. On leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas monter
vous travaillez avec nous?
Voilà. Et monter un observatoire régional santé mentale. Et donc, on comporte avec nos amis du CREAI, ORS, on comporte l'observatoire régional santé mentale, ce qui nous permet d'avoir la totalité, finalement, l'accès à la totalité des chiffres qui remontent sur la santé mentale, ce qui nous permet à la fois de faire de la recherche, puisque du coup, on a les indicateurs, ce qui nous permet aussi de définir quels sont les indicateurs les plus pertinents pour voir un peu ce qui se passe sur la région et donc aussi pour donner des informations à tous les acteurs du territoire. Donc, on est très interpellés par les directions départementales ARS, par les conseils généraux, par les PTSM.
C'est-à-dire que les travaux de l'Observatoire, la puissance publique, collectivité territoriale ARS...
S'en sert. Voilà. Et on le met à disposition.
C'est pas un laboratoire
pas
qui
tout,
produit
non.
des rapports et ça rentre dans une armoire et qui prend de la poussière.
Pas du tout. On le met à disposition de la population. Alors, on reste sur le. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'Observatoire régional santé mentale, vous trouverez un autre outil qui s'appelle Cartopsy, qui est aussi développé par nos collègues du Nord. Et en fait, où on met tous les indicateurs santé mentale et on, au fur et à mesure, on les implémente. Et vous avez accès aux indicateurs santé mentale de la région. Alors, on reste sur le grain département, parce qu'il y a certains chiffres qui peuvent être infradépartementaux, mais difficiles à lire en statistique si vous ne savez pas trop le faire. Donc, on accompagne en dessous du département, mais sinon, c'est d'accès libre. Vous pouvez aller sur Viapsi et vous trouverez les indicateurs régionaux.
Et donc, les chercheurs, les directeurs
peuvent aller chercher les indicateurs voilà. S'ils en ont besoin.
C'est difficile, parce que les indicateurs... Donnez-nous quelques exemples pour comprendre sur la santé dite mentale.
Par exemple, on est en train de faire... On a répondu...
Par exemple, j'imagine que le taux de suicide est par exemple un indicateur
que vous
utilisez.
Oui, mais celui-là, il est assez bien travaillé au niveau national.
D'accord.
Il y a des instances qui sont assez spécifiques là-dessus. Mais par exemple, on a répondu à un appel à projet sur la précarité, la difficulté d'accès aux soins psychiatriques
D'accord.
dans les populations précaires. Voilà, et donc on essaye de voir effectivement comment...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accessibilité des soins, notamment dans ce type de spécialisation
en psychiatrie. Et on voit bien que alors il n'y a pas qu'en psychiatrie, hein, c'est aussi chez le dentiste, un gynéco, et on essaye de voir un peu comment on peut suivre un peu ces populations, et donc cibler des actions, finalement, avec les pouvoirs publics, cibler des actions sur ces zones un peu où ces populations en risque s'il y a besoin. Et donc, ça veut dire que chaque fois que vous avez un projet, la première chose qu'on fait, c'est sur quel périmètre. Et finalement, de quoi vous avez besoin comme indicateur de votre périmètre pour pouvoir monter un projet? On ne peut pas monter un projet si on n'a pas les chiffres de ce qui existe ou de ce qui se fait déjà. Donc, vous voyez que c'est la base, finalement. Et ça, c'est une autre mission qui nous est confiée, au-delà de la recherche. C'est l'animation du territoire.
Du territoire.
C'est-à-dire comment on peut être soutenant de tous les projets territoriaux, en fait, qui peuvent être montés, que ce soit par l'établissement de soins, que ce soit par une direction ARS, etc.
Vous avez dit à juste titre qu'il y a donc une interface importante sanitaire, mais que vous voulez travailler également l'interface médico-sociale.
Oui.
Et peut-être, mais pour le moment, dans vos statuts, ce sont simplement ceux qui ont des agréments psychiatrie
sanitaire.
Et sanitaire, voilà, comme vous dites, psychiatrie sanitaire et le médico-social. Est-ce que vos adhérents sont susceptibles d'évoluer pour intégrer des associations de ce secteur? On a déjà des...
Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont mixtes. L'ARCEA, l'ASEI, sont mixtes. Ils ont des autorisations sanitaires et des agréments médico-sociaux. Et donc, ils sont déjà parmi nous. L'idée, ce sont ceux qui n'ont pas de sanitaire. Et donc, on est en train de trouver une place, peut-être, en tant qu'associés.
Pour travailler parce qu'il y a une demande de psychiatrie forte.
Oui, et puis parce qu'il y a une pertinence, encore une fois, pour les usagers, de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans les deux mondes et on a besoin, il est impératif pour eux qu'on les accompagne sur ces parcours. D'ailleurs, on a une très belle journée normalement, je crois que c'est en juin, il me semble, à Béziers, où on va réunir justement le monde du médico-social et le monde sanitaire. On va faire une première grande journée autour de ces
rencontres-là. Autour de ces questions-là.
Ouais, voilà. Voilà, on va inviter tout le médico-social.
Avec des contributions, voilà. Bon, ça c'est, on voit bien que ça évolue.
Oui, on y va.
Initialement, on voit dans votre cartographie, il y a tous les départements, les 13 départements, bien entendu concentration sur la région toulousaine, mais également il y a la Lozère, côté de Mende.
Oui, tous les départements.
Tous les départements.
On a la quasi-totalité, pas la totalité, mais un grand nombre d'établissements. J'espère que les derniers qui ne nous ont pas encore rejoints ne vont pas tarder à le faire. Parce que, voilà, petit à petit, c'est aussi une question de temps et de disponibilité.
Si on se compare aux autres régions, si vous connaissez M. François-Olivier, est-ce que notre région est bien dotée en établissements publics et privés? Parce qu'on dit souvent que la région, j'ai entendu parfois des chiffres des chambres de commerce, par exemple, en disant oui, la région Occitanie a une spécialité, la médecine, parce qu'il y a le CHU, parce qu'il y a les grandes universités, eh bien, le secteur sanitaire se développe parce qu'il y a des grands centres de formation. Est-ce que c'est la même chose pour la psychiatrie? Est-ce qu'on est plutôt exemplaire ou on serait dans la moyenne?
Non, on est dans la matière, dans la moyenne, je veux dire, en matière d'établissement. Par contre, la problématique aujourd'hui, c'est que la perte de moyens, en fait, financiers et un nombre de lits font qu'aujourd'hui, nous sommes en tension permanente. Et ce qui n'est pas une bonne chose pour l'accompagnement de nos usagers. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas de lits, vous avez vu...
Il y a eu quelques difficultés dans la région, et à Toulouse.
Alors, après, il y a des départements qui sont mieux dotés, peut-être, par exemple, dans la répartition, ou dotés différemment plutôt dans la répartition publique-privée. Par exemple, la Haute-Garonne a beaucoup plus de lits privés que de lits publics.
D'accord.
Voilà, ça dépend des départements.
C'est l'histoire qui explique,
voilà, tout simplement. Après, les dotations sont différentes, mais en fait, ce qui est le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de moyens. On a beaucoup de mal, effectivement, à soigner de façon qualitative. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on se bat, en fait, pour améliorer la qualité des soins. On a besoin de moyens supplémentaires.
Question peut-être technique, parce qu'on parle de psychiatres, et je ne vous ai pas posé la question, est-ce que vous avez des pédopsychiatres?
Ah, bien sûr, oui. J'aurais dû le dire, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a une spécificité où, au sein de votre fédération, Vous pouvez avoir également la même spécialité pédopsychiatrique.
Non, c'est juste une autorisation.
Il n'y a pas de problème, c'est une autorisation.
Aucun problème. Donc, on a des psychiatres de la personne âgée, on a des pédopsychiatres, on a des psychiatres à périnatalité, on a des psychiatres de l'adulte. En fait, on couvre tous les champs de la psychiatrie et les domaines associés. Beaucoup font de l'addictologie, notamment. On travaille beaucoup avec les addictologues, etc. Enfin, la psychiatrie est au cœur de beaucoup de choses dans notre société. Donc, on a beaucoup de réseaux, de partenaires.
Est-ce que les psychiatres qui sont installés en libéral vous sollicitent également ou pas? Ou alors
plus
ils ont une autre organisation?
Plus difficilement parce que c'est...
Sous forme de syndicat, j'imagine.
Non, même pas, c'est que c'est difficile de les approcher parce qu'on n'a pas de mailing.
Ce sont des choses très pratico-pratiques.
Des choses pratiques, on ne sait pas comment... Enfin, ceux qui viennent sur notre site, qui s'inscrivent, sont informés, mais après les autres, on ne peut pas aller les
solliciter
à chaque cabinet parce
qu'on
ne les connaît pas. Enfin, voilà, donc, puisque nous, on représente des établissements, mais ils sont bien sûr les bienvenus à toutes nos manifestations. Mais encore faut-il qu'ils aient accès à l'information.
Voilà. Une autre, la réussite de votre fédération 2015, est-ce que vous pouvez nous dire quelques faits marquants qui vous ont particulièrement, dont vous êtes particulièrement fier depuis 2015? Une manifestation, quelque chose qui s'est produit. Allez, votre fierté, bonjour, monsieur François. Olivier.
J'en ai plusieurs. Ma première fierté, c'est d'avoir, avec l'équipe, d'avoir pu réunir autour d'une table l'ensemble des représentants de la psychiatrie. Ça, c'est une vraie fierté. C'est-à-dire que, parce que vous savez, il y a beaucoup de tiraillements, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de, toujours, dans des instances ou des établissements. Et là, d'ouvrir un espace où les gens travaillent ensemble, je trouve que ça, c'est une vraie réussite.
Ça, c'est une vraie fierté.
Y compris
et vous l'avez réussi. Vous dites,
c'est
pour moi,
c'est le
collectif.
Le collectif a fait que ça a marché, puis ils avaient envie que ça marche. La deuxième chose, je trouve que on n'en a pas parlé, mais ViaPsy, qui est un bel outil aussi.
Alors parlez-nous de ViaPsy, parce que là, on a...
C'est un site internet
également disponible.
Voilà, qui est disponible sur Internet, qui est un site d'aide et d'orientation, si vous voulez, en santé mentale, où vous avez qui répertorie l'ensemble des professionnels du soin.
Alors, vous avez le slogan, c'est prêt pour la visite, oui.
C'est ça, c'est
prêt
ça.
Prêt pour la visite. Alors, allons-y.
Et alors, voilà, donc, les soignants, les accompagnants, les gens qui font l'entraide, dont il y a des comités de pilotage dans chaque département, et où on définit effectivement quel est le périmètre de tous ces dispositifs et de tous ces professionnels. Et si vous cherchez un professionnel près de chez vous, ben vous allez sur le site de ViaPsy, vous allez trouver comment le trouver, où le trouver, les indications,
numéro de téléphone,
qu'est-ce que c'est qu'un établissement, qu'est-ce que c'est qu'un IME, etc., où ils sont les plus près de chez vous, quelle est leur spécificité, leur adresse. Voilà, en fait, l'idée, c'est de guider un peu les gens, parce que c'est tellement hétérogène, la psychiatrie, il y a tellement de domaines différents et complexes que même nous, on peut s'y perdre des fois pour savoir quel est le meilleur professionnel au bon moment. Voilà. Et ViaPsy, c'est une vraie réussite là-dessus. Donc toute l'équipe ViaPsy a fait un super travail et on va l'améliorer encore, il va y avoir une cartographie. Enfin, et c'est un outil qui est développé, on finit le 13e département d'Occitanie, donc il va être
complet. On aura la totalité de la cartographie.
Et on commence à le développer dans d'autres départements de France. Voilà. Donc c'est un vrai succès.
Est-ce que les autres régions vous sollicitent déjà pour vous dire... Tiens, Occitanie, ils sont innovants, ils ont créé quelque chose.
Et oui,
est-ce que vous donnez quelques conseils?
Et oui, j'arrête pas. Depuis qu'il y a eu le financement, tous mes collègues des différentes régions
vous sollicitent
régions
aujourd'hui pour dire...
Je crois que prochainement, j'ai une visio.
L'expérience occitane est transférable.
Voilà, on leur montre un peu ce qu'on fait. Et puis, voilà, j'espère qu'on leur donne envie aussi de développer quelque
bientôt
chose.
Bientôt Nouvelle-Aquitaine, bientôt PACA, bientôt la région.
Mais ça y est, ils sont en train de se...
Ils sont en train de travailler.
Et oui, parce qu'il y a une dotation, un financement, donc forcément, ils se mettent en route.
Avant d'aller plus loin encore, je vous propose d'aller un peu dans les îles et puis on va du côté de Cuba. Una rosa de Francia, une rose de France.
Cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. Y en mi jardín, que encanta, aún la
rayo de sol. Aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. De Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Y en mi jardín que encanta aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Sol, por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. Y volere, y volere, oh, a corona Siraguac. Y volere, y volere, oh, a corona Siragua. Y borere, y borere, oh, a corona Siragua. Y borere, y borere, oh, a corona Siragua.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec mon invité de la Fédération Santé, Psychiatrie Santé Mentale en Occitanie, le docteur François Olivier. La spécialité de psychiatrie en médecine attire peu de candidats. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une spécialité trop difficile, ça demande trop d'efforts, on ne gagne pas bien sa vie, on n'est pas riche. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Je ne sais pas si ça attire pas. Dans l'Occitanie, par exemple, on fait carton plein, les internes choisissent.
Ah oui, les internes.
Il y a certaines régions où, effectivement.
Où on fait carton plein, pourrait-on dire, oui.
Oui, oui. Après, il y a d'autres régions où c'est plus compliqué. D'abord, il faut savoir que c'est pour moi la plus belle des spécialités. Donc,
Bien évidemment.
Et c'est une spécialité que je trouve extraordinaire parce que c'est une des rares spécialités. Alors, la médecine générale, la gériatrie aussi, bien sûr, mais qui s'intéresse à l'individu dans sa totalité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne segmente pas sur un organe et on va s'intéresser à l'être humain, à ce qu'il est dans sa trajectoire, son histoire. Et je trouve que c'est. C'est merveilleux parce que vous accueillez un patient, il s'assoit, il ouvre un livre, il vous raconte une histoire. Il vous raconte son histoire et donc c'est passionnant. On passe notre temps à écouter des gens qui nous racontent des histoires. Après, c'est vrai que soigner en psychiatrie, c'est pas simple parce que ça prend du temps, c'est long, c'est complexe. C'est pas un acte de chirurgie, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'humilité. Et c'est peut-être ça qui peut-être a fait que des gens ont préféré peut-être des spécialités plus techniques, plus scientifiques. Même s'il y a beaucoup de
il y a eu beaucoup d'avancées,
oui,
me semble-t-il.
Oui, et puis la recherche.
Concerne, par exemple, la recherche.
La recherche est très riche.
Les molécules.
Oui, oui, mais la recherche est très riche en psychiatrie. On fait énormément de recherches. Et donc, contrairement à ce que j'en pense, c'est une spécialité qui avance beaucoup. Mais il faut que les gens voilà, aient envie de venir se confronter. Après, on n'a peut-être pas été aidés aussi par la législation qui est devenue de plus en plus compliquée, notamment dans les hôpitaux où les législateurs, sans prendre trop conscience de ce qu'ils faisaient, ont complexifié avec des éléments de sûreté, de sécurité, aussi de protection des droits. Ça,
et
c'est
de protection.
Oui, non, mais là, je pense qu'on est d'accord sur le fait que on est dans un esprit humaniste. Hein, l'idée, quand même, c'est le droit des patients. On est très attentif à cela. Mais le législateur l'a pas fait peut-être tout à fait comme il fallait. Il nous a rendu la vie impossible.
C'est vrai qu'il y a eu une histoire dans notre pays des politiques asilaires,
oui,
très très fortes. Donc tout ça a marqué peut-être les esprits.
Ça a marqué. Alors c'est vrai que alors là aussi c'est une espèce de paradoxe parce que effectivement autant il y a quelques années les gens allaient peu voir finalement peu demander des soins en psychiatrie. Aujourd'hui ça explose. C'est-à-dire que la société distingue un peu peut-être la maladie mentale d'un côté, mais la souffrance psychique, les gens ont bien repéré ce que c'était. Notre société quand même génère beaucoup de souffrances. Et regardez les burn-out, regardez toutes ces pathologies qui arrivent, regardez le post-Covid, regardez les jeunes en difficulté,
les dépressions,
le mal-être qui investit notre société. Notre société ne va pas bien et génère des troubles psychiatriques. Et du mal-être, de la souffrance, des santé mentale qui vont pas bien, etc. Donc, effectivement, on est aussi confronté à cela. C'est-à-dire qu'il y a les moyens n'ont pas augmenté, voire ont diminué.
Non, on a diminué.
Mais par contre,
la demande
explose. Et on le voit là aujourd'hui, c'est dramatique en pédopsychiatrie, où nos collègues pédopsychiatres se demandent comment ils vont pouvoir accompagner tous ces enfants en souffrance, en difficulté.
Aux enfants.
Et accompagner les familles, ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'on a besoin de monde, on a besoin de gens motivés, et on a besoin de plus de place aussi, plus de moyens, ça c'est une évidence. Il ne faut pas laisser tomber les gens, voilà, c'est un peu notre mission. Voilà, ne pas laisser
est-ce qu'il y a d'autres pays européens, restons en Europe uniquement, qui s'en sortent mieux que nous, ou est-ce qu'on essaie de se comparer à ce qui se passe en Espagne, en Italie, est-ce que vous avez des informations en Angleterre, en Allemagne?
Oui, c'est très disparate en fait. Vous voyez, par exemple, on se renseignait, on essayait de voir, on participe à l'amélioration des pratiques avec l'ARS pour essayer de rentrer dans la politique de réduction des mises en isolement et contention. Parce que comment l'idée, c'est de ne plus mettre de gens.
Le législateur s'en est mêlé, quoi.
Et le législateur, mais à juste titre, ça c'était plutôt une bonne idée.
Il s'en est mêlé. Mais il faut une décision. Hein,
voilà, mais comment faire pour justement qu'il y ait de moins en moins de pratiques de ce type-là dans les établissements? Alors on a regardé dans d'autres pays, et on a regardé Finlande, aucune contention et quasiment aucun isolement. Comment ils font? Ben, un soignant, un patient. Voilà, vous avez la réponse.
Ah, ouais.
Voilà. Mettez des soignants, vous aurez des pratiques seront probablement très différentes.
Vous aurez un comportement bienveillant, humaniste, plein
bien
et entier. C'est un homme qui parle à un autre homme. C'est une conscience qui parle à une autre conscience.
Exactement.
C'est peut-être ça le travail.
Mais évidemment.
Il faut
ce qu'on aimerait voir revenir dans nos services, c'est-à-dire plus de soignants. Donc, et certains sont partis parce qu'ils étaient un peu dégoûtés de la complexité et de la dureté du métier au fur et à mesure. Alors, même si ça s'améliore, il y a encore des manques. On a besoin de recruter encore de nouveaux soignants et de re-remplir en soignant les services pour pouvoir accompagner bien les gens. Voilà.
2015-2024, on a l'impression que c'est un cycle-là qui s'achève. L'avenir, vous le voyez comment pour la fédération?
Alors d'abord, je pense continuer à réunir tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde soit là. Ça, je pense qu'on n'en est pas loin. Ensuite, je pense que l'idée, c'est de structurer. Regardez un peu comment ont fait nos collègues d'oncologie, où ils ont fait des oncopoles, avec une idée, c'est-à-dire qu'on réunit les moyens, on fait en sorte que les gens se réunissent sur des centres de compétences et de performances. Et finalement, on fait rentrer la recherche comme étant une banalité du quotidien. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, un soignant doit aussi faire de l'évaluation de ce qu'il fait et s'engager dans des process de recherche parce que c'est ça qui nous fait avancer. Donc l'idée, en fait, c'est de rentrer dans cette logique-là un peu. C'est-à-dire que les gens, d'abord, ne soient pas tout seuls dans leurs établissements, intègrent des réseaux de recherche, réseaux de soins, etc., pour être d'abord meilleur et aussi pour diffuser l'information et aussi pour faire de la recherche.
Est-ce que vous pensez que la puissance publique vous suivra dans cette idée en disant, voilà, là, s'il y a l'exemple de l'oncologie, cet exemple-là, on pourra le décliner dans
psychiatrie. Je ne sais pas quelle sera sa position, je l'espère, mais je dirais aussi, ça dépend aussi de nous, c'est-à-dire à nous de montrer aussi que nous sommes capables de nous réunir, que nous sommes capables de faire des choses intelligentes, que nous sommes capables d'une intelligence collective, voilà, et qu'on est capable de montrer, de s'organiser. Et je pense qu'il ne faut pas tout attendre. Je pense qu'on peut aller vers les pouvoirs publics à partir du moment où nous-mêmes nous sommes
mis en mouvement. Avec des projets, c'est ça, peut-être avec des projets.
Et ça, projets, c'est l'esprit de la FEREPSI, c'est-à-dire initier des projets.
Vous avez toujours des projets toujours. Avec votre équipe, avec cette cellule de coordination qui est exemplaire, et donc pour travailler dans les années qui viennent. Monsieur François-Olivier, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci, monsieur Tenga.
Bien évidemment, votre fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale, exemplaire. Vous êtes à l'initiative avec d'autres dans cette région, avec les Hauts-de-France. Pourrait-on dire bonne route pour la suite,
merci.
Pour un prochain cycle et avec merci. Une réussite, avec d'autres formations. Merci, à très bientôt.
Merci de votre invitation.
Sentinelle d'humanité, Esprit Occitanie. Merci.